Le 13-14, Marion Lourd.
Bonjour à tous, bienvenue dans le 13-14 de France Inter. Ravi de vous retrouver à la une aujourd'hui. Le mot du jour, c'est la désescalade. L'objectif affiché du président français pour sa visite en Russie. Emmanuel Macron doit parler Ukraine et menace d'invasion avec le président Poutine. Pas de percée attendue, dit le Kremlin. Mais l'a priori russe est favorable. Nous verrons ça avec le correspondant de France Inter à Moscou. À 13h30, on analyse cette drôle de guerre entre Ukraine et Russie avec notre invitée, la chercheuse Christine Dugoin-Clément, spécialiste des questions d'influence et de manipulation sur les réseaux. Vos questions 01 45 24 7000 et sur l'application France Inter. À la une aussi aujourd'hui, les Jeux Olympiques version diplomatique, avec le retour de la joueuse de tennis Peng Shuai, disparue plusieurs semaines à la fin de l'année dernière après des accusations de viol contre un dignitaire chinois. Le journal L'Équipe publie aujourd'hui la première interview de la sportive avec un média libre. L'un des auteurs sera avec nous pour raconter les coulisses de cet étrange entretien. Les JO aussi, côté terrain, bien sûr, nous serons à Pékin avec un compteur à 3 médailles d'argent côté français, dont un vétéran de 41 ans et la biathlète Anaïs Chevalier-Boucher.
Je sentais ce matin, il y avait quelque chose. J'étais bien, j'étais heureuse. J'avais envie de faire mon sport, j'avais envie de dérouler mes tirs, mon ski. Je suis super heureuse d'avoir réussi à le faire.
Le point sur la moisson de médailles françaises à la fin du journal. Dans le 13-14 aussi, reportage rare auprès d'une mission antiterroriste en Irak. La politique française, on retrouve notre feuilleton avec 5 citoyens plongés dans la campagne électorale. Le candidat Zemmour s'en prend à l'audiovisuel public. La présidente de Radio France lui répond. L'ex-maire de Levallois, Patrick Belkacem, Kani dormira en prison. L'ex-ministre Claude Guéant, lui, en sortira mercredi. Et puis les voyageurs de la SNCF en ont assez de rater leur correspondance. À qui la faute? L'opérateur et les régions se renvoient la balle. Vous verrez. Le 13-14, vous avez le menu, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Aller au fond des choses et viser la désescalade en Ukraine. L'agenda affiché d'Emmanuel Macron aujourd'hui pour son déplacement en Russie. Le président français est attendu à Moscou dans l'après-midi. Rendez-vous avec son homologue Vladimir Poutine. Les deux chefs d'État se donnent du temps dans un contexte tendu entre les craintes du Kremlin de voir Kiev adhérer à l'OTAN et celles des Occidentaux qui redoutent une invasion de l'Ukraine par les plus de 100 000 soldats russes postés à la frontière. Bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour Marion.
Une correspondante de France Inter à Moscou, vous suivrez cette rencontre pour nous. Les Russes attendent le président français avec un a priori favorable. Les déclarations d'Emmanuel Macron ce week-end semblent en effet cultiver le « en même temps » sur la question ukrainienne.
Effectivement, cette phrase d'Emmanuel Macron dans son interview au JDD hier n'est pas passée inaperçue ici. C'était sans doute l'objectif, cette phrase qui dit « nous devons protéger nos frères européens, mais... » il faut le faire en même temps dans le respect de la Russie et en comprenant les propres traumatismes contemporains de ce grand peuple et de cette grande nation. Voilà, le « en même temps » appliqué à la diplomatie. Et cette phrase est très importante pour les Russes parce qu'elle signifie qu'Emmanuel Macron est capable de prendre en considération leur point de vue, c'est-à-dire de penser qu'ils sont légitimes à penser que l'OTAN est une menace pour eux. Alors ceci dit, Emmanuel Macron ne peut pas évidemment régler ce problème qui a trait à l'architecture de la sécurité en Europe de façon unilatéral et en une après-midi. D'ailleurs, côté russe, on a prévenu dès ce matin qu'il ne fallait pas s'attendre à une percée décisive à l'issue de cette journée, mais cette journée, elle débute au moins sous de bons auspices.
Oui, vous le dites, hein, Sylvain, peu de chance qu'Emmanuel Macron persuade Moscou, par exemple, de retirer ses troupes. Sur quel dossier, en fait, les deux chefs d'État peuvent-ils avancer ?
C'est la question. Alors, ils vont évidemment parler de l'application des accords de Minsk, hein, qui tentent de régler la situation dans l'est de l'Ukraine, où, faut-il le rappeler, il y a une guerre en cours qui a déjà fait 15 000 morts. Les Russes ne sont pas satisfaits du rôle de la France et de l'Allemagne, qui jouent les médiateurs dans cette crise. Ils estiment qu'ils laissent l'Ukraine ne pas appliquer ces accords de Minsk. Un semblant de dialogue, ceci dit néanmoins, semble avoir repris ces dernières semaines, et c'est peut-être là qu'on ira chercher ce soir le signe tant attendu d'une désescalade, vous l'avez dit, de la tension.
Sylvain Tronchet, correspondant de France Inter à Moscou, vous nous raconterez donc ce soir cet entretien et ce qui en est sorti. L'Ukraine, théâtre d'une nouvelle guerre hybride faite d'influence et de manipulation par Internet. On en parle à 13h30 avec l'invitée de France Inter, la chercheuse Christine Dugoin-Clément. Vos questions 01 45 24 7000. La politique en France, c'est la campagne présidentielle qui se poursuit. Nouvelle matinale spéciale sur France Inter ce matin avec comme invité le candidat d'extrême droite Éric Zemmour du parti Reconquête. Sur la rencontre Macron-Poutine, l'ex-polémiste estime que le président français a gâché ses chances, que le chef d'État russe ne fait pas confiance au chef de l'État français Éric Zemmour se défend par ailleurs de vouloir fonder une nation de haine. Je fonde tout sur l'amour de la France, dit-il. Bonjour Élodie Forêt.
Bonjour.
À l'instar de Marine Le Pen, le candidat semble vouloir adoucir son image pour récupérer peut-être des électeurs de la droite classique.
Oui, si Éric Zemmour cet automne martelait qu'il n'en avait rien à faire de la diabolisation, la campagne semble l'obliger à se déradicaliser légèrement sur certains sujets pour ne pas effrayer effectivement les LR. Premier exemple, le candidat qui jusque-là a toujours défendu le maréchal Pétain promet, s'il est élu, de célébrer la rafle du Veldiv. Au-delà de la confusion de vocabulaire, on dit bien sûr commémorer. Mmh. Il y a quand même une petite évolution, même si Éric Zemmour ne reconnaît toujours pas la responsabilité de la France. Autre point, l'affaire Dreyfus, voilà ce qu'il répond ce matin.
Oui, mais évidemment, Dreyfus est innocent.
En 2020, il jugeait pourtant que l'affaire était trouble. Le candidat, accusé aussi d'avoir dans son entourage des sympathies nazies, notamment par Valérie Pécresse, s'est défendu avec véhémence.
Il faut arrêter avec ce cirque. Hein, la nazification commence à bien faire. Il n'y a pas de nazis dans mon équipe.
Semblant oublier Tristan Mordrel, chargé des levées de fonds, fils du Breton Olivier Mordrel qui a collaboré avec les nazis, lui-même a publié dans les années 80 un théoricien du parti nazi. Éric Zemmour oublie aussi Philippe Schletter, neveu du révisionniste Robert Forisson, et Jean-Yves Le Gallou, tous deux adeptes des thèses suprémacistes, ou encore le soutien de l'antisémite Parti de la France, dont le secrétaire général était encore ce week-end à une galette du parti Reconquête dans la Manche.
Éric Zemmour qui veut aussi supprimer la redevance et privatiser, dit-il, France Télévisions et France Inter. Les Français n'ont pas à payer pour une radio orientée politiquement qui fait de la propagande anti-française, LGBT et woke, martèle le candidat d'extrême droite. Bonjour Alexandre Hacoun.
Bonjour.
Cette affirmation fait suite à des attaques de ce candidat lors de son meeting samedi dernier à Lille.
Les Français n'ont pas besoin de médias de gauche qui les détestent, a en effet scandé Éric Zemmour samedi, ajoutant que les Français n'ont pas besoin non plus de financer la propagande immigrationniste, woke et décoloniale de France Inter. Radio qui, selon lui, n'hésite pas à insulter les Français qui ne pensent pas comme eux. Des accusations auxquelles la présidente de Radio France, Sybille Veil, a tenu à répondre ce matin sur Twitter, précisant que le service public appartient à tous. Chacun peut exprimer des attentes ou des critiques, mais ajoute-t-elle, la critique ne se confond pas avec l'invective, car je cite, celle-ci reste rarement sans conséquence. Sybille Veil en appelle donc à la responsabilité.
Il y a une ligne rouge à ne pas dépasser, c'est la violence contre les journalistes. Et on voit aujourd'hui que cette digue est en train de sauter avec des violences qui sont de plus en plus fréquentes à l'égard des journalistes. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, dans cette période importante pour la démocratie qui est ce débat de la campagne présidentielle, je veux rappeler cette ligne rouge.
Ligne qui a d'ailleurs été franchie une fois de plus samedi à Lille, puisqu'une journaliste de LCI qui couvrait ce meeting s'est fait cracher au visage par un militant du candidat d'extrême droite, scène qui selon Libération se serait déroulée au même moment où Éric Zemmour accusait France Inter de propagande.
Alexandre Hacoun, spécialiste média de France Inter, merci à vous. Là aussi, le dossier est politique, même s'il s'agit aussi d'économie. Les activités nucléaires de l'américain General Electric devraient repasser sous pavillon français ce soir. Le conseil d'administration d'EDF doit valider le rachat de ses turbines Arabelle, fabriquées à Belfort. Retour donc dans le giron national pour un fleuron qui appartenait autrefois à Alstom et qui avait été cédé en 2014, notamment sous l'impulsion d'un certain Emmanuel Macron. Laurent Santoir, délégué CGT syndicale centrale de cette filière Steam en cours de rachat.
On était Alstom, on est devenu GE, à la demande de M. Macron. Il était bien ministre de l'économie à l'époque. C'est lui qui a laissé partir cette idée stratégique. La question du lancement du programme EPR était déjà complètement à l'ordre du jour. 50 perdus dans la relance du programme électro-EPR français. On avait la fermeture de Fessenheim. Aujourd'hui, on peut dire que le gouvernement n'a pas fait ce qu'il fallait pour redynamiser sa filière industrielle sur la question énergétique. Bien au contraire. De la fragilise. Et on peut craindre que M. Macron soit venu faire une opération de campagne électorale avec le rachat de cette turbine. M. Macron n'a pas donné de sens industriel à ce rachat aujourd'hui. Il n'a pas donné d'indication claire. Par exemple, la relance du programme EPR2 aurait été une de ses indications. Aujourd'hui, il en parle, mais elle n'est pas faite. Et on attend la confirmation du programme EPR2 et la définition d'un programme d'investissement dans notre entreprise comme dans toute celle du secteur, de façon à garantir qu'on sera en capacité de construire des nouvelles centrales. La filière industrielle mérite mieux que des promesses, elle mérite des actes concrets.
Le délégué CGT Laurent Santoir, joint pour France Inter par Delphine Simon. Emmanuel Macron qui donc plaide pour la relance du nucléaire en France. Le président est attendu jeudi à Belfort pour une visite sur le thème de l'atome. Retour à la case, prison pour Patrick Balkany, l'ex-maire LR de Levallois-Perret en région parisienne, condamné pour fraude fiscale, n'avait pas respecté les conditions d'usage de son bracelet électronique. Il avait sonné une centaine de fois en un an, dont acte ce matin. La procureure d'Evreux renvoie le septuagénaire à Fleury-Mérogis, Dominique Pechmaille.
La cour d'appel de Rouen avait connaissance du certificat médical du 20 janvier que Monsieur Balkany vous a communiqué pendant le week-end et avait donc pris sa décision en connaissance de cause. La direction de l'administration pénitentiaire a proposé un établissement qui permet d'avoir un suivi médical 24 heures sur 24, donc son état de santé est pris en compte. La décision de justice s'exécute à compter d'aujourd'hui en reprise par rapport à ce qui a déjà été fait. Il a fait 5 mois plus 10 mois sur 4 ans. Il reste plus de la moitié de la peine à exécuter. Madame Balkany est pour l'instant hospitalisée, donc à partir du moment où elle est hospitalisée et où les médecins la laissent en hospitalisation, elle reste hospitalisée.
Dominique Puechmaille, procureur d'Evreux, les époux Balkany doivent plus de 5 millions au fisc français. Toute autre décision concernant Claude Guéant, l'ancien ministre de l'Intérieur, lui sortira de prison mercredi. Lui aussi septuagénaire, l'ex-ministre de Nicolas Sarkozy, quitte la prison de la Santé à Paris. Il y était incarcéré depuis décembre dernier dans l'affaire des primes en liquide du ministère de l'Intérieur. Ça tangue à la Bourse de Paris pour les entreprises spécialisées dans les maisons de retraite. Moins 4% en fin de matinée pour le groupe Orpea, mis en cause récemment dans le livre Les Fossoyeurs pour sa recherche du profit et ses mauvais traitements réservés aux pensionnaires. Moins 3,24% pour le groupe Korian. L'avocate Sarah Saldman, déjà à l'origine d'une action collective de famille contre Orpea, compte en lancer une en avril contre cette deuxième société. Bonjour Fabien Cazot.
Bonjour.
Chef du service économie de France Inter, avec les révélation de ces derniers jours et les possibles actions judiciaires à venir. C'est tout un secteur économique qui est dans la tourmente.
Oui, les cours de bourse donnent effectivement la mesure du séisme. Depuis la sortie du livre Les Fossoyeurs, l'action de Korian a dégringolé de près de 40%, celle d'Orpea de 60%. Rien n'a pour l'instant permis d'enrayer la chute, ni les explications fournies par les dirigeants d'Orpea au gouvernement et aux députés, ni les changements d'organigramme qui ont commencé à intervenir au sommet du groupe. Et ce n'est certainement pas terminé, glissent les analystes bons connaisseurs du secteur. Car les pratiques de gestion douteuses ne datent pas d'hier. L'actuelle directrice générale de Korian ne dément pas d'ailleurs dans une interview aux Échos ce matin qu'il y ait eu des systèmes d'achat auprès de fournisseurs avec des marges arrières entre 2014 et 2016 avant sa prise de fonction. C'est une des accusations portées par le livre de Victor Castanet. Son nom de choc va bien au-delà de la seule entreprise Orpea, champion d'un secteur privé sur lequel l'État s'est beaucoup reposé jusqu'à présent, pointent les syndicats, en termes d'accueil des personnes âgées, bien sûr, mais aussi pour tout ce qui concerne le recrutement et la formation de personnel qualifié en France.
Fabien Cazot, chef du service économie de France Inter, vous parliez de cette interview de la patronne de Korian qui défend le modèle des EHPAD privés. Notre système ne peut pas faire sans cela, estime Sophie Boissard aujourd'hui. Elle réclame de la part de l'État un effort financier et des normes de contrôle des établissements. Et avec la nouvelle lumière très crue jetée sur les maisons de retraite privées, un certain nombre de familles aimeraient purement et simplement faire quitter l'établissement à leurs proches âgés, mais elles ont bien du mal à le faire, explique Sabrina Deliry, cofondatrice du collectif Le Cercle de Proches Aidants en EHPAD, fondé fin 2020, et de l'Observatoire du Grand Âge.
On a quand même des familles qui réalisent un petit peu l'horreur de ce que peut vivre son parent. Il faut savoir que dans les EHPAD, vous avez des personnes qui ont leur tête et d'autres qui ne l'ont pas. Quand vous avez un parent qui ne peut plus s'exprimer, qui ne peut pas vous dire ce qui se passe et que vous découvrez ça, vous êtes horrifié et ça, on le comprend. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les familles n'ont pas les moyens de sortir leurs proches des EHPAD. Pourquoi ? Parce que quand on arrive en EHPAD, c'est déjà un bout de système. Les familles sont dans le mur parce que l'EHPAD est souvent la dernière option. On fait tout ce qu'on peut en tant que parent pour maintenir son proche à domicile avec de l'aide. C'est insuffisant. Donc, quand on arrive à l'EHPAD, vous n'avez déjà plus rien derrière. On manque de structure d'accompagnement. Vous avez quelques unités de vie renforcée, des UVR, mais il n'y a pas assez de ces structures pour prendre en charge toutes ces personnes.
Sabrina Deliry, cofondatrice du collectif Le Cercle de Proches Aidants en EHPAD, joint par Anna Bonnemazou-Carrère pour France Inter. Aujourd'hui, l'association des petits frères des pauvres fait part, elle, de ses solutions. Elle plaide pour des structures à taille humaine, pour les personnes âgées, une vingtaine de personnes qui seraient installées dans les villes et bénéficieraient de plus de personnel pour encadrer leurs pensionnaires. À l'étranger, on a retrouvé Peng Shuai, cette joueuse de tennis chinoise disparue pendant plusieurs semaines en novembre dernier, après un message posté sur le réseau social Weibo. La sportive accusait un dignitaire chinois de l'avoir forcée à des relations sexuelles. Cette disparition avait provoqué une émotion mondiale. Peng Shuai donne sa première interview à un média international et indépendant depuis qu'elle a reparu. C'est dans les pages du quotidien L'Équipe aujourd'hui. Entretien à Sophie Dorgan et Marc Ventouillac, le journaliste de L'Équipe qui est notre invité. Bonjour Marc Ventouillac.
Oui, bonjour.
En direct de Pékin, où vous suivez les Jeux Olympiques. Comment est-ce que vous avez obtenu cet entretien avec Peng Shuai?
C'est la plus simple des manières possibles. Au début janvier, on s'est dit avec la rédaction en chef que on va à Pékin, on parlera de l'affaire Peng Shuai. Il faut essayer d'avoir une interview. Donc, on a cherché quel était le meilleur moyen de la voir. Ma petite camarade Sophie Dorgan, qui est spécialiste du tennis, a essayé de voir de son côté. Moi, j'ai essayé de voir du côté olympique, puisque c'est ma spécialité. Et j'ai dit, bon, mais écoutez, s'il y a une chance de la voir, il faut passer par soit un membre chinois du CIO, soit le comité olympique chinois. Donc je me suis renseigné auprès du CIO pour voir quelle était d'après eux, d'un point de vue protocolaire, la personne à toucher. Donc j'ai envoyé un message au président du comité olympique chinois disant qu'on aimerait bien avoir Peng Shuai, voilà. Et puis pas de réponse pendant deux semaines, et jeudi dernier on a eu un email nous proposant de faire cette interview. Alors c'est tout bête, c'est tout simple. Alors qu'objectivement, on y croyait.
Vous avez dû accepter un certain nombre de conditions, évidemment.
Oui, il y avait trois, quatre types de conditions, mais qui, je vais dire, n'étaient pas trop problématiques. Il y en a une qui est légitime et normale, c'est de faire l'interview en chinois. Bon, on avait naturellement.
Sauf qu'elle est anglophone aussi, Peng Shuai.
Elle est aussi anglophone, mais bon, sur un sujet qu'on va dire qui est quand même un petit peu sensible. Sur lequel elle prend aussi peut-être quelques risques avec des mots qui pourraient être déformés ou mal compris. Je peux comprendre, et ça me paraît logique, qu'elle veuille faire cette interview dans sa langue natale. Donc elle l'a fait, on avait un traducteur sur place du comité olympique chinois, mais ce qu'on a fait dans L'Équipe, c'est que les questions ont été traduites par notre traducteur, par une interprète qui nous a fait une traduction. Comme ça, le risque qu'il pouvait y avoir d'édulcoration de certains propos par l'interprète sur place ont été évités. Et donc, les réponses qu'a données Peng Shuai, c'est mot pour mot les réponses qu'elle nous a données hier, sans risque d'erreur par une traduction qui serait passée par un officiel du comité olympique chinois.
D'autres conditions, par exemple, pas de commentaires de votre part?
Pas de commentaire de notre part. Alors là, on s'est un petit peu posé la question sous le sens que ça pouvait déterminer, et ce qu'on a compris, on s'est un petit peu renseigné aussi, c'était surtout qu'il ne voulait pas d'un papier classique dans lequel les propos de Peng Shuai, ce seraient quelques citations par-ci par-là, quoi. Ils voulaient que ils nous ont demandé, et on l'a accepté. En plus, c'est une interview, donc que ce soit un vrai question-réponse et non pas un papier dans lequel on aurait instillé par-ci par-là quelques phrases de Peng Shuai.
Elle vous a semblé dans quel état, Peng Shuai? Parce qu'elle dit par exemple qu'elle arrête le circuit WTA de tennis à cause de problèmes au genou. Ça se voit qu'elle est affectée, que sa santé est affectée.
Non. Je vous rassure, elle ne boite pas, elle n'est pas avec des béquilles ou quoi que ce soit. Hein. C'est des problèmes de genou qu'elle a depuis longtemps. Elle a aussi 35-36 ans, hein. C'est un âge où pour le sport de haut niveau, ça commence à devenir un petit peu limite. Non, elle est arrivée, c'est une jeune femme de 35 ans. On a pris ensuite quelques photos d'elle sans masque. Elle a accepté de faire ses photos avec le sourire, et bon, on n'a pas vu de...
Voilà, vous aviez le sentiment d'une parole libre.
C'est
en
quelqu'un
clair.
Comme vous et moi, une personne de 35 ans, voilà.
Vous aviez le sentiment d'une parole libre, en clair.
Non. Faut quand même pas exagérer. Hein. Je pense que ce genre d'interview dans un pays comme la Chine ne se fait pas de manière totalement totalement libre. On est passé par le Comité olympique chinois, donc c'est quand même une autorité qui est, qu'on le veuille ou non, proche du pouvoir. C'est une autorité institutionnelle chinoise. On n'a pas rencontré Peng Shuai comme ça, d'elle-même, en direct dans un café, et ainsi de suite. Le discours qu'elle a tenu, les explications qu'elle a tenues, c'est grosso modo ce qu'elle avait pu déjà donner soit à la presse de la presse chinoise. Elle avait donné une interview à Shanghai, elle l'a fait aussi, je crois, je vais peut-être vous dire Hong Kong ou Singapour, je ne sais plus exactement, enfin bref, voilà, il n'y avait pas de surprise dans ce qu'elle nous a dit. C'est la version à laquelle on s'attendait. Oh. Elle n'allait pas nous dire, l'ancien vice-premier ministre m'a agressé sexuellement et le parti a fait ceci, a fait cela. Elle a donné la version à laquelle elle se tient depuis à peu près 2 mois maintenant.
Ouais, à savoir qu'elle n'a jamais été victime d'agression sexuelle et qu'elle a effacé son message sur Weibo parce qu'elle en avait envie. Merci Marc Ventouillac, journaliste à l'équipe. Merci de nous avoir répondu sur France Inter. Les Jeux Olympiques côté piste avec les 3 médailles françaises du jour. On vous racontera tout ça à la fin de ce journal. En Irak, l'élection présidentielle est reportée sine die. Le quorum au Parlement n'est pas là. Les élus ont respecté le boycott ordonné par leur parti. L'Irak, possible théâtre aussi d'une résurgence de l'organisation État islamique après un regain de violence au nord de la Syrie. Cette hypothèse inquiète les pays voisins. Les missions antiterroristes se multiplient donc dans le pays pour éviter que le groupe reprenne ses activités dans le désert ou la montagne. Reportage rare sur l'une de ces missions de la correspondante de France Inter, Lucie Wasserman.
2h du matin à Bagdad, des dizaines de blindés des forces antiterroristes prennent la route vers le nord de Fallujah, où l'un de leurs informateurs vient de confirmer la présence d'un membre suspecté du groupe État islamique, recherché de longue date. Dans l'un des véhicules, les chefs de mission regardent une carte satellite sur leur téléphone.
Ok, donc on va partir d'ici et on lance l'intervention ici. Il y a peut-être quelque chose dans cette zone ouverte. Il faut faire attention car on n'a jamais inspecté l'endroit.
Depuis le regain de violence en Syrie voisine, ces opérations se sont multipliées en Irak afin d'éviter une résurgence du groupe terroriste. À l'approche de la cible, les blindés éteignent leurs phares et les premières lignes se lancent alors à pied, l'arme haute, prêt à tirer, puis entre dans la maison. L'homme est bien présent, il est immobilisé dans un coin de la pièce principale. Les soldats fouillent alors le domicile.
On vient de lui confisquer son portable, on va pouvoir faire des recherches dessus. Aucune arme n'a été trouvée ici, mais c'est une ferme. La planque est sûrement ailleurs.
Les forces armées lui glissent un sac en tissu noir sur la tête, puis l'embarquent. Impossible de vérifier si le suspect est bien responsable des crimes dont il est accusé. Les troupes irakiennes, elles, disparaissent une nouvelle fois dans la nuit pour la fin de cette mission et le début de nombreux autres à la recherche des terroristes encore présents dans le pays. Bagdad, Lucille Wasserman, France Inter.
À l'étranger encore, en bref, situation hors de contrôle. Le maire d'Ottawa au Canada déclare l'état d'urgence dans sa ville. Les opposants aux mesures sanitaires paralysent le centre de la capitale depuis fin janvier, notamment les camionneurs qui bloquent les grands axes avec leurs poids lourds. Et le mouvement s'étend à d'autres grandes villes du pays. La Covid en France, ces taux d'incidence en baisse dans tous les départements, même si les contaminations restent élevées, plus de 155 000 en 24 heures. 33 000 patients Covid hospitalisés, mais un espoir se dessine pour les patients atteints de Covid long, ceux qui ont perdu l'odorat. À Reims et à Dijon, par exemple, on peut partir à la recherche de son sens perdu grâce à la cryothérapie. Autrement dit, en se plongeant dans une cabine très froide. Les résultats semblent probants, Alexandre Lepère, et le traitement finalement assez simple.
Ici, il suffit de s'enfermer en maillot de bain dans une grande cabine de douche hermétique, température moins 90 degrés, mais ça passe vite.
Ça va durer à peu près 5 minutes, une séance de cryothérapie à raison d'une fois par jour pendant 5 jours.
Grégory Adam est le gérant du centre Cryothera à Dijon.
C'est hyper supportable, on est toujours là pour bien préparer les gens. Comment vous comporter dans la chambre pour que la séance se passe le mieux possible?
Le stress disparaît, Nathalie est venue de la Haute-Marne pour suivre le traitement. Elle a eu le Covid il y a un an.
Pour le vivre un peu comme un défi.
Et la cryothérapie a rapidement fait son effet.
Le lendemain de la deuxième séance, au petit déjeuner, J'ai dit à mon mari, mais tiens, le thé, je trouve qu'il est parfumé. Et puis, ma tartine, je mange du fromage le matin. Le fromage, il est vraiment goûteux, mais c'est génial.
Résultat, Nathalie se sent mieux.
Au niveau des odeurs, je ne ressens pas tout encore. J'ai retrouvé quoi ? J'en suis peut-être à 80%.
Aujourd'hui, elle a juste à envoyer un questionnaire au centre Cryoterra pour faire le point sur son état de santé.
Un reportage de France Bleu Bourgogne. Si vous avez l'habitude d'enchaîner les TGV et les TER, vous en avez peut-être déjà fait l'expérience. Réserver ou annuler des billets, se faire rembourser est plus compliqué depuis quelques mois en cause l'entrée en vigueur de la liberté tarifaire. Chaque région fixe les prix de ses TER. Les cartes de réduction avantage ne donnent pas droit aux mêmes ristournes selon les régions. Bonjour Thomas Géraudot.
Bonjour Marion.
Bon, pour les voyageurs, c'est difficile de s'y retrouver. Hein.
Oui, parce que si on prend la carte avantage adulte, par exemple, celle qui vous donne des réductions quand vous voyagez sur les TGV et les intercités, elle vous réduit aussi la facture sur votre TER, moins 25% dans le Grand Est, moins 30% en Normandie, mais rien en Occitanie ni en Nouvelle-Aquitaine. C'est la conséquence de négociations commerciales tendues entre chaque région et la SNCF. Depuis la mise en place de la liberté tarifaire, certaines régions veulent aussi communiquer sur leurs propres offres, sur les réductions pour les jeunes, les seniors. Et résultat, quand on prend un TGV puis un TER, des régions préfèrent qu'on ait deux billets séparés pour qu'on voit bien la réduction offerte par la région sur le TER. Autre raison pour expliquer pourquoi on a deux billets, les régions reprochent à la SNCF un système informatique dépassé, incapable de prendre en compte tous les tarifs.
Et justement, que répond-elle la SNCF ?
Eh bien, qu'elle n'est pas responsable du millefeuille de ces tarifs, qu'elle a le même but que ces dernières, remplir les TER. Pour cela, il faut rendre les offres plus lisibles. On insiste du côté du groupe ferroviaire sur le nouveau site et l'appli de réservation SNCF Connect. Pour la première fois, tous les trains et les abonnements, y compris régionaux, regroupés sur la même plateforme. Alors on le sait, SNCF Connect est critiqué depuis son lancement pour des bugs, mais le groupe dit travailler à son amélioration.
Thomas Géraudot, service économie de France Inter, merci à vous. Allez, comme promis, direction Pékin et ses pistes enneigées en neige 100% artificielle. Bonjour Xavier Monferrand.
Bonjour Marion.
Bonsoir plutôt. Hein.
Oui.
Bonsoir pour vous. 3 médailles et une journée en argent pour les Français.
Oui, mais c'est une journée qui vaut de l'or pour le sport français, parce que ni Johan Claret ni Anaïs Chevalier-Boucher n'ont l'argent triste. Pour le papy descendeur, cette médaille olympique est un aboutissement. À 41 ans, Johan Claret vit sa meilleure vie sur la piste de Yangqing. Et pour Anaïs Chevalier-Boucher, c'est une journée de première, parce qu'elle connaît déjà le bonheur d'une médaille olympique, mais toujours partagée. Cette fois, elle monte seule sur le podium. C'est sa médaille qu'elle ne doit qu'à son parcours presque sans faute, un 19 sur 20 au tir qui la prive certes de l'or, mais pas de la joie. Une journée à part pour la biathlète qui avait comme un pressentiment.
Pouah, quelle journée, je sentais ce matin il y avait quelque chose, et j'étais bien, j'étais heureuse, j'avais envie de faire ce que mon sport, j'avais envie de dérouler mes tirs, mon ski, et je suis super heureuse d'avoir réussi à le faire, donc médaille au bout, c'est super.
Ouais, ces médailles en argent, elles ont aussi une valeur historique. Pour Anaïs Chevalier-Boucher, c'est la première d'une Française dans l'épreuve individuelle de biathlon depuis une certaine Anne Briand aux Jeux de Lillehammer en 94. Johan Claret, lui, défie carrément le corps humain. Il devient le skieur alpin médaillé aux Jeux le plus âgé, dépassant la légende américaine Bonnie Miller.
Oui, 41 ans, c'est pas si vieux. Xavier Monferrand, en direct de Pékin pour France Inter avec les moyens techniques de Sandrine Malon. Merci à vous. Vous continuez à nous faire suivre ces compétitions pendant les jours à venir. Dans un instant, la drôle de guerre ukrainienne qui se joue en ce moment en partie sur les réseaux Internet. Vos questions à notre invitée, la chercheuse Christine Dugoin-Clément, 01 45 24 7000. Mais d'abord, la météo de votre lundi 7 février.
Je suis le docteur Salman. J'ai découvert dans les textes sacrés que la bonne santé, ça se soigne. Il suffit de quelques minutes par jour pour changer la vie. Perdre du poids sans se serrer la ceinture. Faire un jeûne séquentiel qui marche. Découvrir l'orgasme sec qui amène le couple à l'extase. Tout est possible. Faites de votre santé un succès. La santé devant soi, mon nouveau livre chez Robert Laffont.
La météo.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. en pharmacie et parapharmacie.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
Journée souvent ensoleillée et assez douce.
Oui, des températures plutôt agréables, un petit peu au-dessus des moyennes de saison. Alors 7 degrés à Metz, 9 à Lille, à Aurillac, 10 à Paris, Châteauroux et Grenoble, 13 degrés pour Dinard, pour les Sables-d'Olonne également, 14 degrés à Bordeaux, 16 à Nice et 17 à Perpignan. De la Bretagne vers les Charentes, le sud-ouest, l'ouest du Massif central, les éclaircies sont parfois assez discrètes, surtout sur le sud-ouest avec en prime quelques plus éparses. Sur la Bretagne, là, on a une perturbation qui s'approche, qui donne essentiellement des nuages et qui concernera les régions au nord de la Loire demain. Et puis partout ailleurs, cet après-midi, c'est du soleil, avec un fort risque d'avalanche sur le nord des Alpes, donc soyez prudents. Et sur le sud-est, le vent a enfin faibli sur la Corse. En revanche, le Mistral reste fort jusqu'à 110 km à l'heure.
Elodie Calac de Météo France, merci à vous. Il est 13h29 sur France Inter.
France Inter, le 13-14. Marion Loup.
La Russie est-elle sur le point d'envahir l'Ukraine? Cette question lancinante est au cœur ces derniers jours des préoccupations, des rendez-vous diplomatiques et même des manœuvres militaires, alors que 100 à 150 000 militaires russes sont massés à la frontière ukrainienne. Les États-Unis en sont persuadés, Moscou cherche simplement un prétexte. Selon le porte-parole du Pentagone, le Kremlin envisagerait même de filmer une fausse attaque ukrainienne contre la Russie, avec des images truquées de lieux détruits, de cadavres et de victimes incarnées par des acteurs, le tout pour justifier une intervention de ses troupes. Bon, pas de preuves présentées jusqu'ici, mais cela montre la tension qui existe entre la Russie et l'Occident, tension qu'Emmanuel Macron espère désamorcer avec son déplacement aujourd'hui à Moscou, on en parlait dans le journal, et demain à Kiev, en Ukraine. Pour évoquer avec nous cette drôle de guerre larvée, une chercheuse associée à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, autrice des influences et manipulations des conflits armés modernes aux guerres économiques chez VAE Éditions. Bonjour Christine Dugoin-Clément.
Bonjour.
Christine Dugoin-Clément, cette vidéo truquée qui est évoquée par le Pentagone et qui justifierait une invasion russe de l'Ukraine, c'est crédible ?
Alors, en fait, ce type d'opération peut être mené de deux manières. Soit vous allez juste créer une vidéo d'une fausse attaque, soit vous créez une fausse attaque, ce qu'on appelle des false flag attacks. C'est quelque chose qu'on retrouve notamment dans les attaques cyber, où finalement, vous créez l'occasion de pouvoir répondre, ce qui vous met dans une position d'être quelque part dans votre bon droit, avec toutes les guillemets qui conviennent, et qui permettent de correspondre au discours russe, qui est de dire qu'ils n'attaquent pas, qu'ils tendent la main de manière régulière et de manière récurrente, mais qu'ils sont attaqués de manière plus ou moins directe. C'est en lien avec le discours que l'on a quant au déploiement de l'OTAN vers l'Est, que la Russie prend comme étant une attaque. Donc à ce niveau-là, on aurait une crédibilité. En plus, l'histoire russe, hein, qui était les parents de la Maskirovska, donc, qui sont des pratiques qui permettent à influencer leurs adversaires pour obtenir ce que l'on veut, sont des pratiques traditionnelles. Donc quelque part qu'il y ait cette crainte est audible et légitime. Est-ce que pour autant on passera de la crainte à la réalisation de cette opération-là, ben c'est bien tout l'enjeu. Et puis, plus récemment, hein, dans le conflit du Donbass, hein, qui est dur maintenant...
Qui est la région séparatiste de l'Est de l'Ukraine, qui est pro-russe.
Tout à fait. Donc, qui dure maintenant depuis 2014, hein, les républiques maintenant autoproclamées de Donetsk et de Lugansk. Eh bien, depuis le début du conflit, on a été amené à voir ce type de vidéos, de contenus, être diffusés avec parfois des images réelles, mais repositionnés dans des contextes qui ne l'étaient pas, qui étaient décalés de date, voire des montages. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites et qui permettent de craindre ce genre d'opération.
Alors, cela dit, à ce jour, les États-Unis ne donnent pas de preuve que cette vidéo est une vidéo vraie, existe vraiment.
Non, en fait, ce qu'ils disent, c'est qu'ils craignent qu'il y ait ce type d'opération. Si vous voulez, on est dans une position qui est, tout le monde le sait maintenant, extrêmement tendue, avec des troupes qui se massent et qui sont dans la nature des matériels et des hommes massés en capacité de pouvoir faire une incursion militaire. Alors après, là, on a des débats entre ce que ça serait juste une incursion, jusqu'où, dans quelle profondeur au niveau de l'État, et puis pour quelle finalité. Mais, si vous voulez, l'enjeu serait de pouvoir être légitime et limiter la dégradation dont ils seraient responsables. Et c'est pour ça qu'au final, quelque part, les États-Unis prennent de l'avance en disant, voilà, en posant les choses, c'est voilà, si cela arrive, ils laissent toute latitude de, et je pense que la Russie, de son côté, préviendra en disant, mais regardez, une attaque réelle aura été organisée pour être maquillée en false flag, donc vous allez avoir une bataille discursive, quelque part, avec d'un côté, eh bien, attention, on sait que vous êtes en capacité de le faire, de l'autre, du déni plausible, et effectivement, dire cela peut arriver ne veut pas dire que cela se fera. C'est une possibilité.
Ce que vous dites dans votre livre Influence et manipulation des conflits armés modernes aux guerres économiques, c'est que l'Ukraine a été un laboratoire pour ça de la part de la Russie. Il y a déjà eu des manipulations de ce genre.
Alors, l'Ukraine, effectivement, a été considérée notamment par le centre de l'OTAN qui travaille principalement sur le cyber, qui est basé à Tallinn, a été considéré comme étant un laboratoire à ciel ouvert d'un large spectre d'opérations d'influence, utilisant différents canaux, différents médias et différentes techniques. Donc aussi bien, j'allais dire quelque chose qui est maintenant devenu traditionnel, c'est-à-dire l'usage des réseaux sociaux pour aller diffuser des fake news ou de la désinformation, voire des contenus de propagande, créer des profils ou réutiliser des profils qui étaient connus par les cibles que vous visiez afin qu'ils aient beaucoup plus confiance dans ce qui va être dit, donc que le contenu soit plus crédible, l'objet étant de créer un contexte qui sera favorable à ce que vous voulez mettre en œuvre. Alors ça peut être d'avoir une tension qui permettra un faux pas, quelque part, à votre adversaire qui justifiera votre contre-attaque. Ça peut être démoraliser des troupes pour faciliter, ça peut être créer le doute quant à la légitimité d'un gouvernement, ça a été un des gros arguments, notamment sur le gouvernement de Kiev, qui n'était pas légitime, qui avait volé le pouvoir, les tortures sur les populations civiles, enfin on a eu énormément de choses qui ont été amenées. On est passé aussi par les chaînes de télévision, les chaînes de radio, les journaux, et y compris à un moment sur des supports publicitaires un petit peu plus originaux. Fut un temps où il avait été émis l'idée de créer Novorossiya, donc c'est-à-dire de prendre tout un canal, si vous voulez, de territoire, une bande de territoire du Donbass redescendant tout le long de la mer d'Azov. Et vous aviez eu à ce moment-là, sur la ligne de front, des paquets de cigarettes diffusés qui s'appelaient Novorossiya. Donc vous aviez même des supports qui permettent de familiariser avec une idée qui pouvait être extrêmement divers et parfois originaux.
Alors Christine Dugoin-Clément, aujourd'hui le président Macron se rend en Russie pour rencontrer Vladimir Poutine et parler de cette crise en Ukraine. Est-ce que lui, en quelque sorte, en voulant jouer en plus en même temps, en essayant de voir un peu de chaque côté la légitimité de chacun, est-ce que lui, il est otage d'une guerre de manipulation ?
En tout cas, il est dans une position qui est extrêmement délicate. Alors, la France était très impliquée, de même que l'Allemagne, dans la mise en place de processus de paix, sous la période de M. Hollande et Mme Merkel, notamment, avec des résultats qui n'ont pas atteint ce qui était attendu, la guerre et l'objet étant de finir la guerre dans le Donbass. Donc la France a un rôle assez particulier. En plus, il a maintenant les responsabilités au niveau de l'Union européenne que nous savons, ce qui le met dans une posture particulière. Nous sommes juste avant des élections, donc il y a beaucoup à jouer. Revenir les mains vides sera très compliqué. Maintenant, on peut difficilement s'attendre à avoir quelque chose d'exceptionnel et une solution immédiate et imminente. Et au niveau de l'Ukraine, qui est quand même le premier intéressé par tout ce dossier, c'est très délicat parce que on a une position qui n'est pas assez pour eux, pas assez dure par rapport à la Russie, et ils craignent finalement que une négociation ne se fasse malgré eux ou sans eux, qui pourrait par exemple passer par une implémentation complète et totale des accords de Minsk 2 signés en février donc 2015 pour mémoire, et qui stipule différentes choses, mais notamment l'implémentation d'abord du volet politique de la guerre et ensuite militaire. Ce qui voudrait dire que vous auriez des députés séparatistes et pro-russes à la Rada, donc l'Assemblée nationale ukrainienne, ce qui aurait un impact évidemment sur la politique ukrainienne, et Kiev craint des chevaux de Troie. Donc voilà, beaucoup de choses pourraient être négociées. Et il a une position qui est éminemment délicate.
Je prolonge ma question avec celle de Sébastien qui nous a écrit sur l'application France Inter. Il dit, est-ce que Monsieur Macron est reçu en tant que président européen ? Quelle parole porte-t-il qui pourrait favoriser une désescalade ?
Eh bien, c'est bien tout le problème. C'est-à-dire qu'est-ce que l'on peut demander et quelle va être la marge de manœuvre. La Russie, hein, par la voix de Dmitri Peskov, porte-parole, lui-même dit qu'il ne s'attendait pas à avoir des avancées significatives. Donc on en est là avec cette pression militaire, et qu'est-ce que l'on va pouvoir poser, qu'est-ce que l'on va pouvoir demander. C'est-à-dire, voilà quels pourraient être les enjeux au niveau des sanctions. On sait que de toute façon, si nous avons une désescalade, ça ne sera pas par mouvements unilatéraux. Donc on n'aura pas une désescalade où la Russie accepterait de faire un repli complet ou partiel, puisque rappelons-nous que au printemps dernier, il y avait déjà eu des premières troupes massées, hein, et que finalement très peu ont été retirées avant qu'elles ne soient re-renforcées à partir du mois de décembre dernier. Donc il ne faut pas s'attendre à ce que la Fédération de Russie, de manière unilatérale et quelque part parce qu'on leur aura demandé, serait-ce poliment, sans avoir de contrepartie, replie de manière totale. Donc c'est là où on verra quels sont les éléments de négociation. Et malgré tout, il y a une partie des éléments de négociation qui sont dépendants de l'Ukraine, en disant quelle sera la possibilité, quelle sera la posture, puisque, mine de rien, je le rappelle, mais le premier acteur est tout de même les Ukrainiens et son gouvernement, qui subissent une guerre sur leur territoire depuis longtemps, qui sont au risque de pouvoir avoir une invasion partielle, totale, ou une pénétration dans le territoire à profondeur plus ou moins forte, ce qui aura un impact social, humain, lourd,
d'ailleurs,
si ça devait arriver.
Et d'ailleurs, de la part d'Emmanuel Macron, aller d'abord à Moscou, puis à Kiev, est-ce que c'est un message qui vous semble négatif en termes d'impact sur l'opinion, notamment c'est ce que disent certains candidats à la présidentielle en France.
Alors, la position est assez, elle est logique dans le contexte global. Est-ce que c'est un signal positif ou négatif? Pour la Russie, c'est très certainement un signal positif, puisque, la Russie est revenue au premier rang des acteurs de la politique internationale. C'est-à-dire que là, rappelons tout de même qu'ils ont traité en direct avec Washington, quelque part en bypassant l'Union européenne et les pays européens qui ont eu bien du mal à revenir quelque part à la table des négociations. Nous n'étions pas le premier choix, à un moment il faut se le dire, là on ne passe pas par l'Ukraine au premier titre, donc on est aussi dans la posture où on va déjà voir celui qui est en position de faire dégénérer la situation pour tout le monde, y compris pour l'Union européenne, parce qu'on parle d'un risque d'engagement, donc de guerre cinétique, mais d'autres sanctions qui sont agitées à l'heure actuelle, notamment au niveau du système bancaire SWIFT, l'exclusion du système bancaire SWIFT aurait des conséquences pour la Russie, c'est évident, mais pas uniquement pour la Russie. Et là encore, obligerait à ce que l'on force une entreprise privée à prendre position.
Autrement dit, on ne parle pas d'une guerre seulement militaire.
Non. Non, non, on est sur quelque chose de bien plus large, et on pourra, s'il y a une désescalade, de toute façon, ce sera sur un principe de négociation. Cette négociation, elle peut être au niveau politique, elle peut être au niveau social, elle peut être au niveau économique, et évidemment, au niveau militaire, si, in fine, on n'y arrive pas. Mais en règle générale, vous êtes sur le prolongement quand on n'a plus réussi à s'entendre et à arriver là-dessus. Et bien évidemment, dans une négociation, les accords, en règle générale, satisfont rarement les deux parties de manière égale.
Olivier nous appelle au standard de France Inter. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour. Je vous remercie de prendre mon appel. Je voulais demander à votre invité, étant donné que des dizaines de milliers, voire j'ai lu plus de 100 000 soldats ont été déplacés près des frontières de l'Ukraine, est-ce que, si l'on prend en compte le coût phénoménal de ce type d'opération, avec la logistique, les véhicules, tout ce que cela peut comporter, est-ce qu'on ne peut pas d'ores et déjà penser que M. Poutine a pris sa décision d'envahir au moins partiellement une partie de l'Ukraine?
Merci Olivier pour votre appel. La réponse de Christine Dugoin-Clément.
Écoutez, ce que vous dites est assez juste. Si on est simplement dans la démonstration de force, c'est une démonstration à très grand coût. J'ajouterai aux éléments que vous avez justement soulignés un autre, qui est que déplacer des hommes en hiver dans cette région du monde sous tente a une usure humaine qui est non négligeable. Donc, à l'heure actuelle, on est dans une posture où tout est sur la table. Vous pouvez tout poser. Maintenant, si vous n'envisagez pas, en cas de dégradation dégradation de la négociation, de pouvoir aller au-delà, c'est quand même avec un coût très important. Et c'est pour ça que c'est notamment très fortement pris au sérieux par les différents et analystes et gouvernements. Ça ne veut pas dire que cela se fera, mais ça veut dire qu'on se met en position de pouvoir le faire et qu'on montre les muscles très 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 fortement.
Dans ce cadre, c'est important pour le président Poutine de s'afficher aux côtés du président chinois Xi Jinping, comme il l'a fait la semaine dernière.
Ah bah bien sûr, parce que vous êtes dans une posture où quelque part votre backup, notamment par rapport aux Américains, est quand même non négligeable. Nous avons tous été les témoins et parfois les dommages collatéraux d'une guerre économique qui s'est livrée entre Washington et Beijing. On a une puissance qui est très forte et quelque part se positionner comme telle et dire attention, on pourrait avoir finalement une extension de la crise et puis des résurgences, notamment en mer de Chine. Donc oui, c'est éminemment important. Encore une fois, il y a soutien et jusqu'où est-ce que l'on peut aller sur le soutien. Pour l'instant, je pense que quelque part, tout le monde a un intérêt rationnel, j'aurais tendance à vous dire, à ne pas rentrer dans un conflit. Après, la rationalité elle-même a ses limites et on a posé sur la table de quoi, en tout cas, à pousser une négociation en disant que voilà, là, on n'était pas dans une position uniquement de démonstration.
Alors,
on se laisse la possibilité.
On a compris que la guerre, elle se joue aussi en ce moment sur Internet, sur les réseaux, dans l'opinion. Est-ce qu'elle se joue aussi via des relais d'opinion, peut-être certains hommes politiques? Je pense à Éric Zemmour ce matin, le candidat à la présidentielle française, qui disait que Poutine était un patriote russe qui était légitime dans sa démarche de faire de la dissuasion, en tout cas avec ses troupes à la frontière.
Alors, quand vous êtes dans une période de conflit, vous aurez de toute manière et toujours des canaux qui vont soutenir, qui vont essayer de faire en sorte qu'une opinion publique soit plus ou moins favorable. Alors, en règle générale, si vous êtes à l'origine d'une stratégie, eh bien qu'elle soit favorable et que finalement cette opinion publique puisse, par effet boomerang, par un principe de backlash, faire pression sur des dirigeants. Après, si au niveau pour un Russe, la position de Vladimir Poutine se justifie avec tout le discours qui a pu être mis en place préalablement. Vous êtes dans un État qui a une approche qui est particulière et rappelons-nous que la popularité de Vladimir Poutine n'a jamais été aussi forte qu'au moment de l'annexion de la Crimée. Ça ne veut pas pour autant dire que ça se justifie ou que ça soit raisonnable et justifié.
La chercheuse Christine Dugoin-Clément, autrice de Influence et Manipulation chez VAE Éditions, merci de nous avoir répondu sur France Inter.
Merci à vous.
France Inter, le 13-14.
13h45 à suivre sur France Inter, le feuilleton. On retrouve cette semaine nos 5 citoyens plongés dans la campagne présidentielle. Aujourd'hui, Sylvana, coiffeuse dans le Nord, frustrée de ne pas assez entendre parler du pouvoir d'achat des Français. Un peu plus tard, le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Marion.
Aujourd'hui, André Malraux visé par les partisans de l'Algérie française, c'était il y a 60 ans.
Et une petite fille de 4 ans touchée et la France qui se lève contre l'OAS.
Rendez-vous juste avant 14h, mais tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Marion.
Il a récemment publié Relax, son deuxième album, et il sera en concert lundi prochain au Café de la Danse. À votre micro, le chanteur Simon Campocasso, alias Le Noiseur.
Et il est vraiment très réussi son album. Parfois ça chante, parfois ça rappe, parfois c'est sensuel ou ça danse, et tout est hyper mélodieux. Mais alors pourquoi ce nom de scène? Je lui ai posé la question.
Alors Le Noiseur, c'est le surnom que me donnait ma mère quand j'étais enfant, parce que j'étais... plutôt turbulent et hyperactif, et le noiseur, c'est celui qui cherche des noises. Donc voilà, c'était le petit surnom qu'elle me donnait. Et quand j'ai décidé de faire de la musique, j'ai pas voulu garder mon nom, parce qu'il est un peu compliqué à prononcer, et pour s'en souvenir aussi, c'est pas évident, donc j'ai choisi de m'appeler Le Noiseur.
Et vous continuez à chercher des noises?
Alors j'ai changé, je me suis assagi avec le temps, mais c'est un surnom qui me va bien quand on me connaît.
La vie est belle, le destin sans les cartes. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le berceau lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. Pourquoi fortune et infortune? Pourquoi suis-je né les poches vides? Pourquoi les siennes sont-elles pleines de thunes? Pourquoi j'ai vu mon père en cycle partir travailler juste avant le sien en 3 pièces grises et BMW la monnaie? Est une belle femme qui n'épouse pas les pauvres, sinon pourquoi suis-je là tout seul, marié sans dot? Pourquoi pour lui c'est crèche et vacances? Pour moi c'est stade de foot, sans cage, sans filet, sans même une ligne blanche. Pourquoi pour lui c'est l'équitation? Pour moi les bastons, pour lui la coque, pour moi les flics en faction. Je dois me débrouiller pour manger certains soirs. Pourquoi lui se gave de saumon solide?
remplis de caviar. Certains naissent dans les choux, d'autres dans la merde. Pourquoi ça pue autour de moi? Quoi? Pourquoi tu me cherches? Pourquoi chez lui c'était Noël ensoleillé? Pourquoi chez moi le rêve est évincé par une réalité glacée? Et lui a droit à des études poussées. Pourquoi j'ai pas assez d'argent pour acheter leurs livres et leurs cahiers? Pourquoi j'ai dû stopper les cours? Pourquoi lui n'avait pas de frère à nourrir? Pourquoi j'ai dealé chaque jour? Pourquoi comme moi je plonge, lui passe sa thèse? Pourquoi les cages d'acier, les cages dorées agissent à leur aise? Son astre brillait plus que le mien sous la grande toile. Pourquoi ne suis-je pas né sous la même étoile?
La vie est belle. Et c'est donc une chanson du groupe IAM qu'a choisi le Noiseur, Frédéric.
Né sous la même étoile, où le regard et la colère d'un jeune garçon face aux inégalités sociales. Un titre paru en 1997 sur l'album L'école du micro d'argent.
Cet album, L'école du micro d'argent, qui est sorti quand j'étais au lycée, je devais avoir 15 ans. Et c'est vraiment, je pense, l'album que j'ai le plus écouté. Il y avait NTM aussi à l'époque que j'ai écouté beaucoup. Mais quand ce disque est sorti, je commençais un petit peu à écrire. Puis très vite, moi, ça m'a donné envie de faire cette musique-là. Cet album faisait vraiment partie des choses que j'écoutais en boucle.
Et pourquoi cette chanson-là plus qu'une autre de cet album?
Alors c'est une chanson qui dit une grande vérité comme ça, qui dit qu'on n'a pas tous la même chance selon de là où on vient, là on a grandi, du milieu duquel on vient. Et moi ce thème-là, je pense qu'il faisait écho en moi parce que moi j'ai grandi dans une petite ville de Normandie qui s'appelle Mortagne-au-Perche. Et je me souviens avoir quand même ce sentiment... un peu d'exclusion aussi et de déterminisme parce que je venais de là et que ça allait être difficile d'en sortir. Moi, j'avais cette ambition de faire de la musique, donc il fallait aller à Paris. Je connaissais personne dans la musique, mes parents non plus. Ça semblait un peu impossible, quoi. Donc je pense que peut-être ça faisait un peu écho. Je me disais, bon, moi, j'ai grandi là. Peut-être que je vais devoir vivre ici, j'aurai pas accès à autre chose.
Mais j'ai pleuré pour avoir un job comme un crevard sans boire. Mais je t'aime à mes parents seuls dans mon lit le soir. Chacun sans boulet, sans ambition, la vie c'est trop long. Écrire des poèmes, puis c'est violent dans un violon. Tu te fixes sur le wagon, c'est la locomotive que tu manques. C'est pas la couleur, c'est le compte en banque. J'exprime mon avis, même si tout le monde s'en fiche. Je serais pas comme ça si j'avais vu la vie riche.
Et puis cette musique, comme ça, ce sample de cordes, je trouve qu'il y avait un truc très cinématographique aussi qui se dégage. Il y avait comme une sorte de monologue de gens qui se livraient comme ça sur leur vie, notamment le deuxième couplet, plutôt dans l'émotion. Et ouais, ça me touchait, quoi. Et je me souviens que c'est une chanson qui me donnait envie, moi aussi, de réaliser mon rêve de faire de la musique. Enfin, en tout cas, elle a participé à ça. Il y a des gens après qui ont un peu ouvert la voie, comme je sais pas, Orelsan par exemple. Il a grandi à Alençon, Orelsan. Donc,
tout près de Mortagne-au-Perche.
Ouais, c'est ça. Et je l'ai rencontré une fois et j'en ai parlé avec lui. Il disait qu'il venait faire des compétitions de basket à Mortagne, tout ça. Donc, on a vraiment eu un peu une enfance comme ça, assez similaire. Et lui a réussi vraiment à devenir un des plus grands rappeurs français, alors que tout était contre lui. C'est assez marrant, je trouve.
IAM, né sous la même étoile, c'était donc Frédéric, le choix du chanteur Simon Campocasso, nom d'artiste, Le Noiseur.
Que vous pourrez aller écouter au Café de la Danse lundi prochain, si vous avez déjà des billets, parce que c'est complet, mais vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places pour son concert à la Cigale, ce sera le 28 novembre.
Frédéric Pommier, Le Noiseur du 13-14, merci et à demain. À 13h51 sur France Inter, le feuilleton cette semaine retrouve nos 5 Français dans la campagne. La présidentielle vue par 5 citoyens bien différents. Parmi eux, Sylvana qui habite Avesnes-sur-Helpe dans le Nord. Depuis des années, Sylvana s'abstient. Pas sûr qu'elle se remotive pour retourner aux urnes en avril. Notre reporter Anne Souhaitemont la retrouve aujourd'hui dans son salon de coiffure. La quinquagénaire, mère de 4 enfants, est en colère. Elle estime qu'aucun candidat ne parle aux Français de leur vrai problème, le pouvoir d'achat.
Comment ça va, Sylvana?
Je vais bien.
Et vous? Très bien. Vous faites un petit brushing?
Brushing à madame.
Bonjour madame.
Bonjour.
Un brushing, hein, bien serré. Est-ce que les clients vous parlent de l'augmentation de l'essence, de l'électricité?
Bah oui, c'est un sujet, avec chaque client qui passe ici dans le salon, c'est le sujet, l'augmentation de l'essence. Nous, on est quand même ici dans une zone où les transports en commun, on n'en a pas beaucoup. Donc, les gens sont obligés de prendre leur voiture. Même si vous faites 20 km aller-retour, ça fait beaucoup. Donc, l'augmentation de l'essence à 80. Je ne sais pas, à un moment donné, si là-bas en haut, là, ils arrivent un petit peu à réfléchir de ce que nous, on est en train de vivre.
Et la campagne? La dernière fois qu'on s'était vu, vous disiez que personne vous parlait aujourd'hui, en février ?
Moi, je suis toujours dans le même état d'esprit, en fait. On a Éric Zemmour qui, lui, parle, ben, il est cash, il est franc. Pour les autres, ben, en fait, voilà. On a tous compris un peu le petit jeu qu'ils sont en train de mener. Ils mènent des jeux, quoi. Mais on n'est pas sur un ring, hein. Vous dites Éric Zemmour, au moins il est cash. Est-ce que ça veut dire que c'est quelqu'un à qui vous pourriez donner votre bulletin de vote ? Je crois pas. Il est cash, mais je sais ce qu'il pense en fait. C'est son côté extrême.
La dernière fois, vous me disiez, s'il y en a une qui me parle un peu, c'est Marine Le Pen. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes toujours d'accord ? Vous vous intéressez toujours à sa candidature ?
Oui, parce qu'en fait, elle est quand même pas dans l'extrême extrême. Après, franchement, je suis vraiment pas position. Ce qu'ils vont donner, je ne sais pas. Petite beauté. J'effilerai la prochaine fois un petit
D'accord,
peu.
Ça va.
Parfait. Toute belle.
Vous dites, j'aimerais bien les entendre, ces candidats, sur la proposition. Vous avez vraiment l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a pas de débat là-dessus ?
Non, on parle toujours du même. On a Éric Zemmour qui parle de l'immigration. C'est un problème, mais c'est un problème parmi les problèmes. On n'a pas que ça en France comme problème.
Vous aimeriez entendre parler de quoi ?
Des Français. Moi, j'aimerais bien entendre parler des Français, de la misère des Français, qui vont travailler pour rien et qui ont leur compte bancaire dans le rouge et qui payent des agios. Moi, j'aimerais bien qu'on en parle.
Si vous aviez une baguette magique et que vous pouviez créer un candidat, vous aimeriez que ce soit quoi ces propositions ? Augmentation des salaires, baisse des charges, aide aux petites entreprises comme vous ?
Oui, ça serait ça en fait. Augmenter les salaires pour que les gens puissent aller travailler dans un but, qu'il leur reste un peu d'argent et qu'ils puissent se faire plaisir. Ou alors mettre aussi un peu d'argent de côté pour pouvoir s'acheter peut-être une maison. Ça, c'est un but dans la vie. Aujourd'hui, les Français vont travailler pour rien. Enfin, pour rien. Si, pour survivre. Voilà le terme exact. Merci. Merci vous aussi.
5 Français dans la campagne, le feuilleton du service politique de France Inter. Demain, direction Colmar pour retrouver Simon, jeune Alsacien sans emploi.
France Inter, le 13-14.
Le vif de l'histoire, retour en arrière il y a 60 ans, Jean Lebrun. En Algérie, depuis la fin de 1961, l'activisme de l'OAS, organisation militarisée de l'Algérie française, tue davantage de civils que le FLN.
Pourtant, début 1962, les FLN continuent d'être traités de terroristes, les Européens d'Algérie seulement d'activistes quand ils font les attentats de l'OAS. Si le journaliste Jean-François Kahn leur fait observer « mais je devrais dire de vous que vous êtes des fascistes », ils lui répondent « si vous le faites, on vous tue ». Le 7 février 1962, une des cibles choisies par l'OAS Métropole, la mission 3, va être le ministre des Affaires culturelles, André Malraux. Un groupe d'une demi-douzaine de jeunes gens, 19-20 ans, qui s'est rencontré dans des stages de préparation militaire, ont repéré le grand hôtel particulier où Malraux loge à Boulogne. L'à peu près va caractériser leur opération. Le 7, c'est Conseil des ministres à l'Élysée. Malraux est absent. Les activistes savent-ils seulement qu'ils n'occupent que les étages ? Au rez-de-chaussée se tiennent les propriétaires, les renards, les renardos, dit l'écrivain qui les reçoit souvent pour parler d'art. Leur petite Delphine a 4 ans, bientôt 5. Les comparses déposent une charge sur une fenêtre du rebord du salon où Delphine lit allongée sur le tapis. Et c'est l'explosion. Fini de lire pour Delphine. Son visage en sang paraît le lendemain à la une de tous les journaux. Ses parents, constatant qu'elle est aussi courageuse que rieuse, lui raconteront, au moins dans les premières semaines, le mouvement de refus total de l'OAS et de solidarité qui s'est formé aussitôt autour d'eux, qui, soit dit en passant, ne semble pas avoir beaucoup concerné Malraux.
En revanche, les renards préfèrent, Jean, ne pas évoquer devant elle ce qui s'est passé à Charonne quelques jours plus tard.
Le 8 au soir, un appel à manifester a été lancé par le PC et la CGT, mais aussi par les chrétiens de la CFTC et du MRP, et enfin le PSU, organisation dissidente des socialistes, aussi déterminée contre la guerre d'Algérie que minoritaire. La manifestation n'a pas été autorisée. Elle ne rassemble qu'une trentaine de milliers de personnes, mais la police de Maurice Papon choisit de charger, pousse la foule dans les bouches du métro Charonne, 5 personnes trouvent la mort à cet emplacement, écrasées, 3 autres aux alentours de la place Voltaire. Une autre manifestation sera convoquée, élargie dans l'Union nationale et dirigée contre les exactions de l'OAS, qui, dès ce moment, a perdu définitivement la bataille de l'opinion en France. Le chiffre canonique d'1 million de participants est régulièrement avancé pour caractériser cette journée décisive.
Et qu'est devenue Delphine Renard ?
Un peu plus tard, elle déclara que la guerre d'Algérie ne l'intéressait pas particulièrement. Ce qui m'est arrivé aurait pu se produire ailleurs, à un autre moment. Plus tard encore, elle perdra aussi son deuxième œil. Devenue psychanalyste, elle commencera à participer à des cérémonies commémoratives à partir de 2012, publiant en 2013 un livre « Je choisis la vie ». L'érection, ici et là, de monuments aux gloires de l'OAS la révulse. Et si vous rencontriez les auteurs de l'attentat qui a fait basculer votre vie, que se passerait-il, lui demande-t-on ? Eh bien d'abord, elle répond, je ne pourrais pas les regarder dans les yeux. Et j'aurais vraiment peur qu'ils n'expriment en guise de regret que celui d'avoir raté Malraux.
En février 1962, Jean, le conflit approche de son terme.
Et alors que les négociations vont s'établir entre les belligérants, Salan, le chef de l'OAS, franchit un pas supplémentaire. L'OAS avait pratiqué l'exécution à froid dans les rues d'Algérie de musulmans pris au hasard, ou bien d'Européens qui avaient le tort de ne pas être des extrémistes. Salan, les premiers jours de février 62, ordonne de tirer à blanc sur quiconque porte l'uniforme de gendarmerie mobile en particulier. L'extrême droite d'aujourd'hui se souvient-elle de cette consigne qui provoqua la rupture de beaucoup d'officiers avec l'OAS ? Et le directeur du Figaro, le Figaro d'alors, Pierre Brisson, écrivit « L'infamie, c'est chez Salan qu'on la trouve ».
Jean Lebrun, merci à vous. Dans quelques minutes sur France Inter, la Terre au carré avec Daniel Fievé aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour Marion.
Vous le dites avec des fleurs aujourd'hui.
Oui, on s'intéresse à la face cachée de nos bouquets de fleurs.
À tout de suite.